Flora Bouberlé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Prague. Alors à Radio Prague, on s'intéresse souvent au destin des Tchèques de l'étranger, des immigrés, de ceux qui ont fui le communisme pour aller se réfugier à l'Ouest et au sein de la rédaction française. On s'intéresse évidemment particulièrement à ceux qui ont trouvé refuge dans des pays francophones. Leur histoire est singulière, mais elle découle évidemment de l'histoire de la Tchécoslovaquie, enfin de la République tchèque aujourd'hui, et de l'histoire... de son histoire communiste. Et une histoire encore plus singulière, c'est souvent celle des enfants d'émigrés, qui est encore un peu différente de celle de leurs parents. Vous en êtes une. Vous avez grandi en Suisse, mais vos origines sont tchèques. J'aimerais juste commencer peut-être par vous demander quels ont été vos premiers mots, petite, en tchèque, si vous vous en souvenez.
Mama, maminka.
Maminka.
Ouais, tout simplement.
Alors justement, enfant, quelle était la langue à la maison ?
Alors, c'était français pour moi, parce que mes parents ne voulaient pas que je me mélange les pinceaux. Ils parlaient également italien, parce qu'ils ont vécu dans un camp de réfugiés politiques à Naples. Donc longtemps, j'ai entendu l'italien, du français et du tchèque.
Le tchèque avait quelle place ? Vous dites en effet que c'est le français quand même qui a prédominé.
Oui.
Quelle place avait-il, j'ai envie de dire, dans votre imaginaire ?
Alors le tchèque, c'était les contes, c'était les grands-parents qui venaient. Et j'ai gardé le tchèque que je parle aujourd'hui, c'est un tchèque d'enfant, que j'assume bien. Et le français, c'est la vie de tous les jours, c'est le concret, la réalité, l'avenir qui se dessinait.
Quand vous dites oui, c'est les contes, ça veut dire que votre mère, quand même, vous lisez des histoires en tchèque
hein. On avait des livres de Josef Lada, par exemple. La télévision suisse passait des animations de Kertek.
Ah bah oui, Kertek, voilà. Il est connu dans les pays germaniques notamment aussi. Oui.
Bon, Kertek, c'est trois mots. C'est Tam, Ahoy, je sais quoi encore. Mais voilà, on avait tout ce qui est lié à l'enfance, tout ce qui était doux, tout ce qui était un peu dans un cocon était en tchèque.
À l'école, est-ce que vous vous sentiez différente ou alors est-ce que finalement vous étiez une parmi tant d'autres dans une ville multiculturelle comme Genève ?
Alors, j'étais à la fois comme les autres parce qu'effectivement, dans la classe, il devait y avoir trois Suisses. Et encore sur les trois Suisses, un Genevois, pour dire. Tout le reste était des camarades, des petits camarades portugais, espagnols, italiens. Donc je ne me sentais pas différente. Par contre, je venais d'un pays qui était méconnu, qui était de l'autre côté du mur. Une sorte de brume, comme ça. Donc je ne pouvais pas vraiment faire partager ma culture.
Les gens ne connaissaient pas en fait
Non.
la Tchécoslovaquie, la République tchèque.
Non.
Bon, la République tchèque, c'était plus tard.
C'était un peu plus tard, mais la Tchécoslovaquie, en tout cas, c'était vraiment derrière le mur et personne vraiment comprenait.
Et alors justement, ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. Évidemment, à l'école, je pense que les enfants sont peut-être moins au fait, etc. Mais la Suisse a quand même accueilli pas mal hein, de Tchécoslovaques en exil.
Oui.
Est-ce que vous aviez l'occasion, peut-être en famille, avec votre mère, de fréquenter en fait des Tchèques exilés aussi, ou finalement ça a été une intégration totale, où finalement vous fréquentiez plutôt des Suisses qui n'étaient pas d'origine tchèque hein.
Alors en fait, j'ai une mère qui a toujours été ouverte au monde. Qui n'a pas du tout l'esprit de communauté. Donc, elle a vécu en Italie, comme je disais, à Naples. Enfin, elle a quand même pas mal voyagé et elle m'a appris de vivre dans un monde sans frontières. Et donc, aller passer des soirées à parler de recettes tchèques ne l'intéressait pas du tout.
Mais c'est intéressant, justement, que vous disiez qu'elle vous a appris à vivre dans un monde sans frontières parce qu'elle-même venait d'un pays qui avait une frontière complètement hermétique, en fait.
Oui.
Et la franchir, finalement, ça a été une libération, peut-être plus que pour d'autres personnes, presque.
Oui, complètement. Ouais, elle est restée comme ça, vraiment.
Vous me disiez en amont de cette interview que vous ne vous sentiez pas une tchèque d'aujourd'hui, puisque vous sentez quand même en partie tchèque, hein, mine de rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Parce que j'ai grandi avec une culture des années 60, qui était celle de ma mère, surtout. Et donc, voilà, les références, c'était Miloš Forman, Havel, qu'on avait en photo à la maison, je crois que c'était un oncle, enfin bref, tout ça. Et effectivement, voilà, moi je suis revenue ensuite en tant que jeune adulte ici, mais j'avais comme référence la Nouvelle Vague ou toute la culture de l'époque, la littérature, etc. Donc je vis un peu dans un autre temps, et tout en restant, en me mettant à jour sur les films d'aujourd'hui, les acteurs et tout ça, les comédiens, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller au théâtre ici, regarder les films. Donc voilà, je ne suis pas non plus cloisonnée dans les années 60.
Vous parliez du fait que vous êtes revenu en tant que jeune adulte en Tchécoslovaquie, mais vous êtes revenu quand même pour la première fois en Tchécoslovaquie beaucoup plus tôt,
oui.
Au début des années 90 avec votre mère. Ça a été assez rocambolesque, hein ?
Oui, parce que en 91, ouais, à Pâques, ma mère a décidé de nous prendre, ma sœur et moi, et de repartir donc à Prague, mais pour les vacances, pour un court séjour comme ça, mais pour retourner dans le pays. Et puis on s'est fait arrêter à la frontière, à Cheb, il me semble. On est resté 48 heures comme ça. On s'est fait descendre, c'était un train Docteur Jivago, un peu, pour l'atmosphère, dans un petit compartiment. Et c'était assez drôle parce qu'elle avait passé la nuit à nous raconter, à nous lire des contes de l'Ada, etc. Et moi, je sentais enfant qu'elle avait un peu peur. On traversait la forêt noire, comme ça, c'était un peu... Bon, peut-être après, avec le temps, je rajoute des couches un peu romanesques.
Oui, mais en général, je pense que sur le moment, il y a quand même un ressenti qui devait être palpable. J'imagine qu'il a dû vous rester...
Oui, parce que c'était l'inconnu. Et puis finalement, on allait voir ses contes, on allait voir ses forêts, ses châteaux que je voyais dans des dessins, des cartes postales. Et puis bref, on s'est fait arrêter vers 4-5 heures du matin. J'ai une grande sœur, 7 ans mon aînée, donc elle était à l'âge... adolescent rebelle. Donc elle insultait le douanier de son côté, ma mère qui devait prendre les valises, moi en pyjama avec le nounours, et puis on descend à la gare comme ça. 2 jours, et c'était le premier souvenir.
Alors est-ce que vous avez trouvé ce pays de châteaux et de contes quand vous êtes arrivée ?
Oui, j'étais fascinée, et puis il y avait tous ces événements, il y avait... J'ai beaucoup de flashs comme ça, il y avait à la fois mes grands-parents, une douceur, une partie de la famille que je connaissais pas, une langue que j'essayais de reconstruire aussi dans ma tête. Et voilà toutes ces démarches qu'il fallait faire, parce que c'était un pays qui s'ouvrait petit à petit.
Et votre mère, elle a vécu comment ce retour ?
C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, en fait. Moi, je sais que j'ai le sentiment que c'est ça qui m'a forgé, qui a mis les premières pierres d'une fondation en tant qu'artiste. C'est ça qui a un peu forgé mes questions que j'ai encore aujourd'hui.
C'est bien, vous faites la transition avec ma question suivante, puisque je voulais dire que justement, que vous êtes, parce qu'on n'a pas encore parlé, que vous êtes architecte et artiste, et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que cette orientation professionnelle artistique a été influencée par ce passé-là, ce passé, cette double appartenance d'une certaine façon ?
Oui, je pense en tout cas pour l'art, parce que j'étais constamment dans le fantasme d'une famille que je ne connaissais pas, d'un pays, d'une langue, d'erreurs dans la langue, de mauvaise compréhension enfant... Il y a des mots que je comprenais différemment, donc je me suis fait un vocabulaire un peu à ma sauce. Et voilà, donc constamment dans le fantasme, dans l'histoire, une histoire que je me crée aussi. Donc oui, je pense en fait que ça m'a complètement dirigée. Mais je le comprends aujourd'hui.
Justement, alors pour parler de votre travail artistique, moi j'ai un peu regardé donc votre site internet, et il y a un des projets qui m'a fait beaucoup rire, je dois dire. Enfin, je regardais, je ne m'attendais pas du tout, et d'un coup, je vois ce projet qui s'appelait Pépic Staline. Alors, il faut un peu expliquer pour les Français quand même, parce qu'il y a une blague qui est vraiment géniale. Alors, il faut expliquer aux francophones que Pépic, c'est le diminutif en tchèque de Joseph, hein, un peu comme Pépé en espagnol. Et bon, Staline, on sait qu'il s'appelait Joseph. Et il faut quand même se rendre compte aujourd'hui ce que ce titre de projet a de subversif. Plus aujourd'hui, d'une certaine façon, mais alors à l'époque, on peut imaginer que si ça avait été donné sous le communisme, si quelqu'un avait osé dire Pépic Staline, ça aurait été incroyable, c'est une vraie désacralisation. Et puisqu'en fait, vous dites que Staline, c'est un peu c'est un pépic. Alors sachant qu'en plus en tchèque, un pépic, c'est un peu comme un Honza, c'est un peu, c'est pas un bouffon, mais disons que c'est un peu, voilà, c'est un mec bien gentil, quoi, on va dire. C'est incroyable, moi j'y avais jamais pensé. En fait, Staline, c'était un pépic. C'est incroyable.
Oui, peut-être que je l'ai toujours vu comme un pépic, en fait.
Et puis, en plus, un pépic en tchèque, il ne faut pas oublier, en plus, les enfants ont souvent un pépic. C'est un espèce de clown. Hein. Un espèce de clown avec son petit chapeau pointu, son nez rouge, etc. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est venu comment ce projet ?
Alors bon, le projet...
Même s'il est ancien, j'imagine.
Il est ancien, puis il fait partie de plein d'autres petits projets. Pour le titre, non, je dirais que c'est toujours des allers-retours avec l'enfance. Et j'essaie souvent de me remettre dans la peau d'une petite fille. Parce que c'est souvent, je crois que c'est souvent les artistes font ça, hein, de revenir à l'enfance. Ouais.
Et de voir ça avec des yeux d'enfant, et finalement, quelqu'un, un personnage aussi dangereux, aussi machiavélique que Paulette Staline, avec des yeux d'enfant, il devient un clown.
Oui, cette façon de dédramatiser.
Vous êtes à l'heure actuelle plongé dans un projet de recherche autour des archives de la STB, hein, de la police politique tchécoslovaque, autour de vos racines maternelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, je suis tombée sur... D'abord, j'ai cherché les dossiers concernant ma mère, puisque sur la base de données, en tapant le nom, j'ai découvert que ma mère avait un dossier. Je suis allée aux archives, effectivement c'était une condamnation à l'emprisonnement de 2 ans, comme toutes les personnes qui sont parties. Et en cherchant ces documents, je suis tombée sur des documents concernant ma grand-mère, qui était une femme lambda, rien de particulier. Ma famille ne faisait vraiment, n'était liée à aucun parti. N'était pas liée au parti en fait ici, donc voilà, je comprenais pas pourquoi. J'ai lu son dossier, en fait elle faisait objet d'une filature. Donc, il y a plusieurs journées où elle a été prise en filature.
Et c'était après le départ de votre mère ou avant?
C'était quelques années après, très peu de temps après. Mais c'est pas lié à ma mère en fait, j'ai découvert que c'était lié à autre chose.
C'est important pour vous ces recherches, on pourrait appeler ça un travail de mémoire aussi, hein? C'est quelque chose qui vous porte dans quelle direction?
Mais je suis un peu comme une petite souris enfermée maintenant, parce que j'étais un peu curieuse, alors je vais chercher un document, après j'en trouve un deuxième, un troisième, et c'est fascinant et on se laisse prendre. Et c'est important, oui, je pense d'une manière générale, en tout cas dans mes activités en tant qu'artiste, architecte, c'est re-questionner l'histoire, tout le temps, rien n'est figé. Et c'est ce qui nous permet aussi de construire demain.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci à vous.